Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Jean-Baptiste venait d'être arrêté, chargé de chaînes et jeté en prison. Ses disciples, conduits par l'envie, sont venus lui annoncer les œuvres éclatantes qu'opérait Jésus-Christ. Le saint précurseur en choisit deux parmi les plus incrédules pour les envoyer eux-mêmes s'informer de la vérité. Quelle vérité? Que le Messie, le désiré des nations, est enfin venu. Convaincus par leurs propres yeux, ils pourront, à leur tour, convaincre les autres. Effectivement, ils seront témoins des miracles spectaculaires de guérison. Une fois les deux disciples partis, notre Seigneur s'adresse à la foule. Il fait l'éloge de Saint Jean-Baptiste en forme de question. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais de quel éloge s'agit-il? Pourquoi cette image du roseau agité par le vent? De quoi est-il le symbole? Le roseau, dit Saint Jean Chrysostome, est vide à l'intérieur, en sorte qu'il n'a ni force ni consistance, et que le moindre souffle l'agite et l'incline en tous sens. Le roseau agité par le vent signifie les âmes faibles et inconstantes, âmes charnelles et mondaines, qui inclinent tantôt à droite, tantôt à gauche, au gré des passions, des tentations et des occasions. Est-ce qu'on peut attribuer à Saint Jean-Baptiste une telle image? Est-ce qu'on peut appeler roseau quelqu'un qui ne flotte pas à tout vent, quelqu'un toujours égal à lui-même, sachant conserver l'humilité dans le succès et la patience dans les revers? Est-ce qu'on peut nommer roseau quelqu'un qui reçoit avec la même indifférence les louanges et les injures, qui aime avec une égale affection ses amis et ses ennemis? Peut-on désigner roseau, enfin, quelqu'un qui reprend avec la même liberté les grands et les petits, les riches et les pauvres? Non, Saint Jean-Baptiste était bien loin d'être appelé roseau. Lui, il était inébranlable comme une colonne, de façon que ni la crainte ni la faveur ne le détourneraient pas de la vérité. C'est parce qu'il a dit la vérité, qu'il l'a dite avec fermeté et constance, quand il a condamné les coupables liaisons d'Hérode, qu'il a mérité la prison et bientôt la mort. Constance et fermeté louées par notre Seigneur. Et nous, chers fidèles, chers frères, pourrions-nous aussi mériter le même éloge, éloge de fermeté et de constance de la bouche du Sauveur? Mais enfin, qu'est-ce que la constance? De quoi s'agit-il? Saint François de Sales disait qu'on peut appeler un homme constant celui qui se tient prêt et ferme à souffrir les assauts de ses ennemis, sans s'étonner ni perdre courage durant le combat. La constance résiste à tout ce qui fait violence, violence de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Il y a d'abord l'inconstance naturelle de notre esprit, qui aime le changement, que cela bouge. Puis de l'extérieur, nous sommes émus par les promesses et les menaces, les désirs de plaire et la crainte de déplaire. La constance a pour but, en somme, de dominer les passions de l'intérieur et les obstacles de l'extérieur. Alors, sommes-nous de ce nombre des hommes constants? Pas sûr. Plutôt non. Aujourd'hui, nous sommes joyeux parce que tout réussit selon notre volonté. Demain, nous serons tristes parce qu'il nous arrivera une petite contradiction que nous n'attendions pas. Telle personne aujourd'hui vous plaît, demain vous aurez peine à la supporter. Nous formons tous les jours de nouveaux projets et les abandonnons le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes prêts à mourir pour Jésus-Christ, demain, le sacrifiant à nos passions. Saint Alphonse de Liguori nous aurait comparu à la girouette, parce que nous changeons sans cesse avec le vent des choses de ce monde. Contrairement donc à Saint Jean-Baptiste, nous aurions justement mérité la reproche de lâcheté, de faiblesse et d'inconstance. Constatation peu agréable qui devrait nous porter à en rechercher les remèdes. Voici juste deux moyens qui rendront notre volonté constante, qui lui donneront toute l'énergie dont elle peut être capable. Cette énergie, il faut d'abord la demander à Dieu, et pas seulement une fois en passant, mais souvent, même toujours, puisque nos combats durent toute notre vie, et notre nature a toujours horreur de ce qui la gêne, de ce qui la fait souffrir. Il faut toujours faire cette prière. Seigneur, Dieu fort, fortifiez ma volonté et augmentez mon courage. À la prière doit se joindre l'effort. Dieu n'accepte jamais la demande d'une âme qui voudrait obtenir une vertu en demeurant inerte. La force s'accroît par les efforts. Et plus les efforts sont énergiques, plus l'âme devient forte. Elle s'accroît par les violences que l'on se fait pour dominer ses nerfs, pour repousser les tentations, pour pratiquer les vertus difficiles. Elle s'accroît surtout si l'on persévère longtemps à soutenir les mêmes luttes. On a vu des marins d'une expédition polaire rester pendant plusieurs années dans ces régions où le froid descendait à parfois plus de 50 degrés. La glace formait sur leurs habits une sorte de cuirasse qui fondait la nuit et gelait de nouveau au réveil. Il leur était impossible pendant longtemps de se déshabiller et même de se laver. La nourriture était détestable. La nuit durait 4 mois. Leur navire étant arrêté et emprisonné, ils ont dû chercher leur salut en marchant sur les glaces flottantes. Et ils ont subi tous ces maux sans jamais se laisser abattre, sans perdre leur entrain et leur gaieté. Et tout cela pour acquérir les richesses et les honneurs, choses qui passent bien rapidement. Et nous, chers frères, chers fidèles, à qui sont offerts des biens infiniment plus précieux et éternels, nous sommes si peu courageux. Nous nous laissons arrêter par des peines légères, par la crainte de quelques privations, de quelques railleries ou humiliations. Et bien que Saint Jean-Baptiste, accompagné de Notre-Dame, nous aide à obtenir auprès du Sauveur cette vertu de constance et nous y exercer avec courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.